Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h04, on y revient au Mastic, on est dans le super Moscato Show. Comme tous les jours, vous savez qu'on est là de 15h à 18h. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et nous sommes avec la petite Sarah Piposki habillée en panthère aujourd'hui. Oh, quelle doudoune, Sarah, quand même.
Eh bien, écoute, bonjour Vincent, meilleurs voeux, Vincent Moscato. Je voulais être assortie à tes moonboots à poil, en fait, tu vois.
On a sorti tous les deux. Oui, mais moi, j'ai pas le string en peau de lapin, comme toi.
Mais celui-là, je le sors pas tous les jours non plus. Hein.
Pas tous les jours.
Quand jour de fête.
T'imagines un string en peau de lapin. Je l'ai, moi, aujourd'hui. Il n'est pas sorti depuis le mois d'août, il ne peut pas se rendre compte du temps qu'il fait dehors. Il y avait René Lacan, il y a Rico Lagourle. Comment ça va?
Comment ça va? Bisous Sarah,
salut,
meilleur vœu Sarah.
Comment ça va les
salut mon Vincent, salut Pierrot, salut Adrien, ça va? Écoute, je compte les jours, mais dans un mois, bim, on repart tout neuf. Voilà.
Et voilà, ça va être impeccable. Eh ben, ça va te faire du bien de sortir de la maison.
Je vais te dire.
Tu dois être sympa au niveau du caractère en plus.
Ah oui. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne qui vient me voir. C'est bizarre, personne ne vient me voir.
Ouais, ça doit être agréable de vivre avec toi. Bon, c'est pas grave, on est avec toi. Nous, on est avec toi tous les jours, 3 heures. Et crois-moi, des fois, c'est long.
C'est long.
Adrien, oui.
Comment qu'est-ce ça va, les amis? Oh, on connaît Vincent Parker, Pierrot, depuis 20 ans maintenant. Oui. Petit écart hier soir, Vincent, non?
Non, je te jure que non.
Ok. Un coup de froid dans la neige.
Alors, je vous l'accorde, petit.
Ah, petit écart. J'ai pas dit catastrophe, mais petit écart.
Pas des trucs qui défraient la chronique, pas des roulades, pas des chansons, ni rien. Du parlage fort qui abîme la voix, mais
d'accord,
pas.
D'accord, du parlage fort.
Ouais, pas trop.
Des réseaux,
pas
vaillant. De trois réseaux.
Ah, des raisonnements, oui.
Ah oui,
ça peut raisonner.
Mais là, je pense que ça a dû parler de l'enlèvement de Maduro.
Attendre le procès, il a été fait hier chez Vincent Moscato, le procès de Maduro.
J'aimerais être une mouche pour attendre ça.
Mais il nous régale ce Trump, il nous régale et ça nous divertit. Chaque jour il y a un truc nouveau, il nous régale.
C'est la rentrée, c'est la Ligue 1. Une petite question moyenne, Ligue 1,
c'est
les copains.
Jamais rien chez nous.
Petite question moyenne. Quel est le plus probable cette saison en foot? On va même au-delà de la Ligue 1. Quel est le plus probable en cette saison en foot? Le RC Lens, champion de France de Ligue 1, exploit, énorme exploit. Énorme exploit, doublé du Paris Saint-Germain, Ligue 1, Ligue des Champions, deuxième doublé d'affilée. Quel est le plus probable? On parle de deux exploits qui ne se voient quasiment jamais. Lens champion, c'est très rare, surtout avec ce PSG-là. Et doublé en Ligue des Champions,
c'est dur.
Il n'y a que le Real qui a fait ça ces dernières années avec Zizou, trois titres. Mais sinon, ça ne se fait jamais.
Vas-y, Vincent.
Ça compte pas.
Parce que
tu as
plus de chances d'être champion.
Oui, oui.
Quand tu es à la mi-saison, tu as quand même plus de chances que tu es premier. Tu as plus de chances d'être champion de France que de faire le doublé, même si tu es le PSG. Le doublé, c'est tellement rare. Et puis tu gagnes deux trophées, la Champions League, c'est quand même compliqué quand même, non?
Vous voyez plus Lens champion, Sarah aussi?
Oui, c'est vrai que maintenant que j'y pense.
Elle est lilloise normalement,
Lens et Lille, c'est pas tout à fait pareil, mais oui. Mais je remarque que Vincent a dit quelque chose de super pertinent.
Ah! Alors, faut le remarquer,
Il a raison. Mais Lens, ça fait plus que la moitié du chemin. En termes de proba, c'est Lens finalement.
Tiré par les cheveux.
Et la réponse d'Éric Dimeco.
Écoute, Lens.
Lens champion de France.
Eric répond par rapport aux probabilités, mais aussi son envie profonde.
Oh, je pense pas, il est pas comme ça, Eric.
Non, je suis pas comme ça, je te jure.
C'est pas le genre de la maison.
Alors, la France du Moscato Show est en train de trancher jusqu'à 18h. C'est très serré et à 52%.
Serré.
Oui, à 52%, vous répondez le plus probable. C'est le doublé du Paris Saint-Germain, Ligue 1, Ligue des Champions. En fait, vous ne croyez pas au titre du Racing Club de Lens.
À Lens, ça peut arriver maintenant. Alors, je dis pas qu'ils sont pas favoris, ça peut arriver, on va dire. Paris, ça peut arriver.
Le 50-50 me paraît être.
Après, c'est très beau pour le foot français quand même.
Ah, ce serait énorme. Ah,
ce serait magnifique.
Ce serait beau pour le foot français quand même.
Quoi, que Lens soit champion de France, ça serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Par contre, si vous voulez que Marseille se détache d'un coup et parte en Méditerranée comme ça, c'est le meilleur moyen, hein, si vous voulez vous
débarrasser. Imaginez, vous détachez quand vous partez à la dérive.
On est capable de se détacher du continent.
Lens, champion de France, et le PSG gagne la Champions League.
Imagine pour la deuxième fois. Et Lyon gagne la Ligue Europa.
Ouais.
Je pense qu'il se suicide. Dis pas ça en rigolant, Eric, il a peur là.
Alors, le programme cet après-midi, on va démarrer par le trophée des champions au Koweït. Oui, jeudi, Paris et Marseille s'affrontent au Koweït. Ouais, est-ce une aberration de plus ? L'OM, on en parle à 17h. Le problème, est-ce De Zerbi ? Et puis, avec ce Antoine Dupont-là, est-ce que les Bleus redeviennent favoris face à l'Irlande ? Vincent règle le problème. Vincent, avec Dupont quand même.
Super Toto, comme on l'appelle.
C'est pareil, là.
Possible, hein. Paris qui était dans les forces spéciales au Venezuela.
Et nous parlerons aussi de fléchettes dans cette émission, parce que justement...
Ça, c'est Eric.
Justement, les fléchettes, c'est peut-être un sport, on va voir. Je suis rassuré, on pourra débattre ensemble, Eric, parce que j'ai regardé aussi. Je me suis régalé. Journal moyen.
Mais j'ai regardé aussi. Mais
première édition.
C'est Estelle Denis qui a dit tout à l'heure, c'est addictif.
Mais oui.
Tu crois que tu n'aimes pas, tu tombes sur les fléchettes, tu restes.
Exactement.
Quand tu n'as pas c'est de vie, ça. Évidemment. Bon,
moi, j'y joue des fois. J'y joue des fois.
Et Adrien, je compte sur toi.
Oui.
Adrien, je compte sur toi parce que je sais que tu as un pote qui peut avoir ça, mais l'année prochaine, j'y vais.
Ah, mais j'ai tout, moi.
J'ai déjà mon déguisement.
Et quoi,
il change de salle. Moi, je vais me déguiser à Popeye.
D'accord.
Quand même. Donc, c'est mon déguisement. Tout le monde, c'est mon déguisement préféré.
Personne n'a calculé Vincent qui voulait nous dire qu'il joue aux fléchettes. Alors, ça devait être passionnant comme anecdote.
Ah, ben, tu sais qu'avec les petits segments, je ne suis pas sûr qu'il arrive à la cible.
Le petit segment, c'est pas bon ça. Journal moyen, première édition, soyez bien présents, il y a plein de choses. Beyoncé, je sais que tu aimes bien Beyoncé, Sarah, oui. Elle rejoint le club des 5. Des 5 très privilégiés. Et puis on passera par Albi dans le journal moyen, Vincent. Tu connais bien Albi. On va parler d'une fève magique à Albi. C'est la galette des rois en ce moment.
Et alors les cadeaux, attention, aujourd'hui on vous gâte.
Mais ça aussi, il a une fève magique.
Dans le Kikadi, un séjour de 3 nuits avec forfait pour 4 personnes au ski à Risoul, 1850, station d'altitude sous le soleil des Alpes du Sud. Kikadi par SMS au 7-32-16. Et puis, soyez bien au rendez-vous du Super Moscato Show, parce que à un moment dans cette émission, nous allons vous proposer des places pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On vous envoie à Rabat le vol, l'hôtel, les places pour le match. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc écoutez bien le Super Moscato Show. D'ailleurs, les huitièmes de finale continuent et il y a une belle affiche entre l'Algérie et la République démocratique du Congo tout à l'heure à 17h. Mais tout de suite, donc, le Koweït, ses plages, son soleil, sa fiscalité.
RMC, le Super Moscato Show.
Bienvenue à Koweït City.
L'Azerbaïdjan, non pas l'Azerbaïdjan, c'est le Kazakhstan.
L'Eldorado du désert.
Je veux dire, la nature est tellement forte.
Les Koweïtiens font venir des travailleurs du monde entier.
Comme j'ai bien appris au rugby, maintenant je fais du cinéma. C'est mon pain quotidien, mais c'est ma passion.
Ça. Une oasis de luxe, qui est aussi un paradis fiscal.
Je suis à bloc, moi, de défiscalisation, je peux plus balancer le tube.
Deux tiers des résidents du pays sont étrangers.
Je sais plus ce que c'est comme nationalité. Émirati.
En plus, vous avez ce l'Arabie Saoudite qui va venir.
Un bon manager peut gagner jusqu'à 20 000 euros.
Il restera ambassadeur de l'Arabie Saoudite.
C'est pour ça que l'Ouzbékistan est passé très rapidement.
Les Koweïtiens ravolent de sa French touch.
Et je remercie Dieu, bien sûr, parce que je fais manger ma famille avec ça. Et ça, j'en suis très, très fier. Breaking news.
Alors, donc, jeudi, le PSG et l'OM s'affrontent pour le trophée des champions. L'affiche est belle, il y a de l'enjeu, mais ce sera sans supporters des deux clubs et ce sera surtout à 5000 km de la France. Le trophée des champions au Koweït, est-ce une aberration de plus ? 32-16 ou alors Twitter, hashtag RMC Live, ou bien encore WhatsApp 06-12-424-424 pour laisser vos messages. Nicolas Pelletier nous explique tout.
Salut les amis, salut Nico.
Le match, c'est jeudi 19h à Koweït City. Pour quelle raison ?
La Ligue répète très souvent qu'elle souhaite, avec cette affiche, partir à la conquête d'un nouveau public. Mais il y a surtout des raisons financières de voir cette affiche à l'autre bout du monde, dans la plus grande enceinte du pays, avec une capacité de 60 000 places. Le pays va verser autour de 3,5 millions d'euros pour accueillir cette affiche. 1 million par club et 1,5 million pour la LFP. En tant que Ligue, on doit penser à la façon d'améliorer la valeur commerciale de la compétition, confiait Pablo Longoria, le patron de l'OM, le 18 décembre dernier. Selon nos informations, le Koweït était loin d'être le grand favori. Lors du début des discussions, c'était bien Oman qui semblait avoir toutes les faveurs de la Ligue, mais avec finalement une proposition financière moins importante. La LFP a ensuite eu un important dossier venant d'Inde, mais l'environnement autour du match rassurait moins l'instance du foot français. Ces dernières saisons, la LFP a visité de nombreux endroits pour ce trophée, Israël, la Chine ou encore le Maroc. Et à 5000 km de la France, très peu de supporters des deux clubs feront le déplacement. Aucun groupe officiel ne sera sur place. Par exemple, le PSG pourra peut-être compter sur son fan club du Liban. Pour l'instant, rien n'a filtré sur le succès ou pas de la billetterie autour de cette affiche.
Aucune idée du nombre de spectateurs dans le stade. Idée. Ça peut être aux trois quarts vide.
Exactement. Et on rappelle aussi, c'est important parce qu'ils vont à 5000 km, c'est que le PSG jouera lundi face au Paris FC en Coupe de France et l'OM mardi à Bayeux.
Ouais, et sur la programmation, on notera aussi que le diffuseur a pris soin de faire jouer les deux clubs dimanche. Voilà. C'est une excellente idée. C'est que c'est un jour de moins.
Très bonne idée. C'est malin de faire ça.
Tout va bien dans cette histoire. On va commencer par Sarah Pitkowski.
Je pense que le romantisme, le foot, ça fait bien longtemps qu'on n'y croit plus. Et je pense qu'on vient de dire les chiffres. Je pense que le seul intérêt, le seul et unique intérêt de ce match, c'est effectivement l'argent que ça va rapporter. Et je suis assez étonnée que De Zerbi dise finalement qu'il ne comprend pas ce déplacement. Ça fait 1 million d'euros dans son club. Donc je pense que c'est qu'une histoire d'argent. Et je ne vois pas quel autre argument on pourrait avancer pour délocaliser ce type de rencontre, sachant que ce trophée, bah, c'est presque un trophée un peu en carton pour le PSG. Si l'OM le gagne, pardon,
l'intérêt,
Eric,
c'est l'affiche en fait.
Oui, oui.
C'est qu'on a la chance d'avoir un.
Mais quand tu fais PSG Toulouse, au Qatar, c'est du même acabit en fait. Mm-hmm. Je pense que pour le PSG, c'est un trophée en carton. Pour l'OM, qui n'a pas de trophée depuis un certain temps,
14 ans,
ça restera un trophée qui marque et ce sera une deuxième victoire face au PSG d'affilée.
Ouais,
mine
sauf
de rien.
Que ce sera devant, sans les spectateurs, les supporters de l'OM.
Mais à partir du moment où tu choisis le Koweït ou que ça soit en Inde, puisque ça devait être aussi en Inde, tu te dis pas que tu vas remplir ton stade. Enfin, je veux dire,
si tu fais un Real Barça au Koweït, le stade sera rempli.
Oui. En Arabie Saoudite,
pourquoi le PSG ne remplirait pas le stade?
Mais parce que c'est pas du tout le même public. Peut-être que si tu vas aux États-Unis, tu remplis le stade avec le PSG, mais ce n'est pas.
Oui, mais tu peux pas faire des déplacements en milieu de semaine avec des décalages horaires. C'est-à-dire, il faut aussi un tout petit peu de cohérence. Si tu fais un match en milieu de semaine et que tu as ton championnat, ta Coupe de France, tu vas pas leur faire 14 heures d'avion. Ça tient pas la route.
Et surtout, ils ont mis cette affiche face à des demi-finales de Coupe du Roi où tu auras le Barça et le Real qui sont les deux clubs suivis dans la région.
Mais de toute manière, je pense pas que l'argent tu le fasses avec la billetterie, on est bien d'accord.
Donc
tes 3 millions et demi, t'es sûr que tu les as.
C'est un pays qui paye,
c'est un promoteur.
C'est 1 million et demi par club, c'est ça?
1 million par
club. Donc tu payes un mois de salaire de Luis Enrique en gros.
En fait, c'est l'office de touriste du Koweït qui s'achète une page de pub.
Exactement. Pour 3 millions et demi. Vincent, est-ce que c'est aberrant pour toi ou est-ce que le chèque justifie le déplacement?
Non, mais ça vaut rien, c'est de la bouffonnerie. Alors le chèque justifie toujours le déplacement, parce que bon, t'as une équipe professionnelle à faire tourner, mais justement, faut savoir doser, faut savoir ne pas exagérer là-dedans. Il y a toujours un juste milieu à garder. C'est, encore une fois, hier on le disait, c'est pas une entreprise. Le foot, le rugby, tout ça, c'est pas une entreprise.
C'est pas normal.
Tout le monde. Il faut gérer les corps, les l'usure des mecs, mental, physique et tout ça. Et puis faut pas faire de la bouffonnerie. Pour ça, il y a les Harlem Globetrotters, tout ça.
Les Harlem gros trotteurs.
Ouais, donc t'as tout ça et t'as tous ces trucs là qu'est-ce qui là c'est la fête au village, c'est les cochons volants, c'est la kermesse, c'est la course en sac, c'est de la bouffonnerie. Alors les mecs, je sais qu'au foot les mecs ça s'attache à des trophées. Je pense pas que celui-là quand même, celui qui va gagner va défiler. Je pense pas, autrement ce serait le summum de la couillonnade et de la bêtise. Non, moi je trouve que ça vaut rien. En plus ça a des noms pompeux. Qu'est-ce que c'est le nom déjà? C'est
Trophée des champions.
Trophée des champions. C'est pompeux, le trophée des champions de quoi? Marseille est champion de quoi?
Mais de rien, mais comme c'est le PSG qui a gagné la Coupe de France.
Comme l'année dernière.
Jouer le deuxième de Ligue 1.
Et comme l'année d'avant.
Pas tous les ans. Toulouse avait gagné la Coupe de France.
Mais c'est faire des matchs pour faire des matchs. Ça use les mecs, ça intéresse personne. Donc c'est le mec qui a de l'oseille.
Oui, mais ça fait rentrer 1,5 million à la LFP.
Mais arrête, hein, arrête.
Mais oui, mais c'est une question d'argent.
Juste des millions à garder, un truc qui m'étonne, entre la crédibilité et la bouffonnade. Il y a même l'oseille.
Ça ne justifie, la fin justifie pas. Enfin, non, l'argent pas ne justifie temps, pas tout ça
temps,
pour toi.
Pas tout le temps. Je sais qu'il en faut. Il faut de l'oseille. Mais elle n'est pas dupe quand même. Il en faut. C'est le nerf de la guerre. Mais il y a un juste milieu. Tu vois, et puis en plus, ce n'est pas des sommes extraordinaires.
C'est non, mais c'est ça qui m'étonne. C'est qu'une billetterie classique d'une finale, ça fait plus que 3 millions et demi.
Tu fais ça au Stade de France.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Au Stade de France.
Le gain ne doit pas être énorme quand même.
Ils font des courbettes, là, ils mettent les genouillères, ils se mettent.
Non, mais c'est 3 millions et demi pour le Koweït, mais ils l'ont vendu le match. Il y a aussi les droits. Il y a non, aussi les droits.
Compris dans les droits télé de Ligue 1 plus.
Je trouve que dans le football, c'est des sommes qui sont dérisoires.
Tu me dirais, d'accord.
Au rugby, tu me dirais, ça cause.
C'est énorme. Tu prendrais 30 millions
de PSG, mais là. Et Marseille. Parce que même Marseille, qui a 300 millions de budget.
Oui, un million, c'est rien.
J'ai la vie, je le dis.
Non mais là, Vincent, là, c'est deux débats, du coup, un sur le fait que ce match.
Oui, un sur le sportif et un sur la délocalisation au Koweït. C'est ce que vous voulez dire, Eric, mais il était censuré. Dès qu'il parle du Paris Saint-Germain, il est censuré, Eric Dimeco.
Bah, le problème, c'est que l'intérêt du match, ça fait un moment, de toute façon, bon, on sait que c'est pas le match de l'année, mais c'est toujours symbolique, c'est un petit trophée, voilà. Et comme, mais là, le match était rendu sympa par l'affiche, justement. Sauf qu'un PSG OM,
au Stade
sans spectateur, oui, à l'autre bout du monde, est-ce que vraiment, est-ce que c'est un vrai classique?
Et puis le petit intérêt qu'il y avait aussi, c'était cool d'avoir ce match-là au mois d'août, qui ouvrait la saison. C'était une sorte de tradition. En France, tu faisais ça, peut-être tu pouvais alterner chaque année en le faisant une année à Bordeaux, une année à Lyon, une année à Lille, une année au Stade de France, une année à Marseille. Ça avait un petit intérêt, ça lançait la saison, c'était cool.
Tu pouvais pas le mettre au mois d'août
parce que le PSG jouait la Super Coupe d'Europe.
Mais traditionnellement, c'était super d'avoir ça début août, où tu pouvais te dire, bon, allez, ça lance la saison de foot. C'est pas le match de l'année, mais il y a un petit truc en plus.
Et d'engranger des abonnements.
Après, c'est culturel. En Angleterre, c'est un trophée qui compte. Oui, en Angleterre, ce genre de trophée, ça se déroule à Wembley. Le stade est comble et c'est un vrai rendez-vous lors de la saison. Nous, c'est une question de culture. On n'est pas attaché à ça.
Parce que le Marseille-PSG au Vélodrome, les Marseillais l'ont gagné parce qu'ils ont mis beaucoup d'engagement, parce qu'il y avait une attente, une ambiance. Mais est-ce que
un jour supplémentaire,
c'est possible de reproduire ça sur un terrain neutre, sans ambiance, dans un match qui est complètement hors du temps en fin de compte, puisqu'ils partent de France au mois de janvier, il fait moins 2 et ils se retrouvent au soleil, enfin ça je vois pas trop quel va être le rendu sur le terrain. Alors, est-ce que les deux équipes vont jouer le jeu à fond?
Alors que t'aurais pu mettre un PSG-OM au Stade de France et t'aurais rempli le stade, je pense, avec la billetterie, tu aurais le million et demi ou peut-être les 2 millions de recettes et t'aurais eu la location du Stade de France.
Mais une recette pleine du Stade de France, c'est plus qu'un million et demi quand même.
Oui, mais t'as la location qui doit au moins coûter 700 000 euros le match. Avec la sécurité autour d'un OM-PSG, c'est peut-être pas gagné non plus d'avoir les 3,5 millions.
Après, Pierrot, on va peut-être interroger les supporters au 32-16, mais forcément, malgré tout, tout le monde va se prendre au jeu. Nous, les spectateurs, les supporters des deux équipes, et même les joueurs. Parce que vous savez dans quelle mentalité sont De Zerbi et Luis Enrique. Eric, De Zerbi, déjà, gagner un titre avec l'OM, quel qu'il soit, ça compte. Et Luis Enrique, c'est un rageux dans le bon sens du terme. Il veut battre tous les records, il veut pas perdre face à l'OM, surtout pas.
C'est pour ça que ce match-là est intéressant et pour moi, il n'y a pas de problème de jouer.
Oui.
Alors en plus, avant on le faisait en début de saison quand les équipes peut-être n'étaient pas encore rodées. Là, il y a une période. Alors peut-être que c'est pour ça aussi qu'il le délocalise parce que c'est en plein hiver. Moi, le seul truc à redire sur ce match-là, c'est la
délocalisation.
Voilà, parce que ça fait. Vous imaginez le voyage qu'il y a à ce moment-là et surtout l'écart de température pour des organismes qui sont, c'est des Formule 1 les mecs là. Donc tout est calculé
et vous le disiez
tout à l'heure, pour peu de gains et vous imaginez ce match là celui-là en particulier au Stade de France à ce moment-là,
ça aurait été mieux quand même.
C'est sympa, tu fais 80 000
c'est pas sûr que ça joue jeudi avec la neige
oui non mais bon là c'est exceptionnel. Alors c'est vrai que
au Stade de France
c'est vrai que à ce moment-là de l'année c'est peut-être pas très judicieux,
c'est plus aléatoire.
Voilà, et peut-être qu'il faudrait le délocaliser dans un endroit, dans un
endroit
un peu plus chaud. Suivez mon regard, où il y a 120 000 personnes qui peuvent venir, puisqu'il y a double billetterie.
130, je crois.
130, du coup, à la double billetterie.
Il y a 20 000 aussi.
L'aberration, c'est ça. C'est, les supporters ne peuvent pas aller voir le match. C'est quand même un match particulier. Ouais, c'est, moi, je trouve ça dommage.
Non, mais t'as le championnat pour ça, Eric. T'as le championnat, et puis après, ils peuvent se recroiser en Champions
League. Ça, toujours.
Après,
la Coupe
de France, des champions, c'est pas un peu. C'est pas, qu'est-ce
après,
que
Vincent,
fait,
le trophée des champions a été créé maintenant. C'est quelque chose qui est ancien. Et ça marchait plutôt bien. Quand c'était en France.
Oui, mais après, il y a des évolutions dans le sport. Je pense pas que ça...
C'est comme
la Coupe à Thiriez, à un moment donné, ben, t'es battu.
La Ligue.
Ça sert plus à rien.
Oui,
la
mais là, c'est un match, Vincent. C'est
Bon, d'accord. Mais est-ce que tu rajoutes un match à un match, alors que t'as le même avec de l'intérêt sur le championnat, sur une Coupe de France, pourquoi pas sur une Champions League? Trophée des champions, c'est pompeux. Le trophée des champions, c'est la Champions League. C'est pompeux complet.
Alors, nous accueillons Jean-Christophe au 32-16, supporter parisien. Salut Jean-Christophe.
Bonjour à tous. Non, pas supporter parisien, mais non.
Ah bon, supporter de quelle équipe du coup?
Très bien.
J'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Moi, je suis de Troyes.
Supporter de l'Estac.
On a parlé il n'y a pas longtemps de Nivers ensemble, ouais.
Nivers-Rotten, le duel des légendes de Troyes.
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est une aberration pour toi ou pas ce PSG-OM au Koweït?
Ouais, moi je trouve ça dommage parce que Eric a dit juste avant, c'est rien que pour les supporters. C'est un match où il y aura quoi? Des gens qui vont aller voir un match qui s'en fichent complètement.
Ça peut être vide, hein.
L'ambiance va pas être terrible. S'il y a déjà du monde, mais l'ambiance va pas être terrible. C'est vraiment dommage pour ça. Ça va être un match comme si c'était un match de début d'année pour se remettre en jambe. Moi, il y a une journée de championnat, d'accord, mais ça fait limite un match de pré-saison qu'on a l'impression. C'est aucun intérêt. Je vais même pas le regarder de toute manière. Moi, je trouve pas ça intéressant. Enfin, pas d'ambiance dans le stade. Les deux équipes, celui qui va gagner, si Marseille bat Paris, ils seront toujours contents de battre Paris. Moi, ça me ferait plus plaisir quand même. Mais il n'y a rien d'intéressant, je trouve, dans ce match-là. Quoi. Encore, ils seront en France, il y aurait une belle ambiance, il y aurait peut-être un peu plus d'engouement, mais là, c'est à l'autre bout.
Eric, n'y voit aucune moquerie ou ironie dans mes propos. Est-ce que tu penses que si l'OM bat le Paris Saint-Germain jeudi, est-ce qu'il y a des supporters de l'OM qui vont sortir dans la rue à Marseille pour célébrer le titre?
Bah oui.
Oui. Donc il y a un intérêt alors du coup.
Je pense.
C'est à 19h le match, donc c'est à l'heure de l'apéro, les bars sont peut-être pleins.
Voilà. Alors bon, même à Marseille il fait froid, c'est rare, mais ça arrive.
Oui.
Mais il n'empêche que, en plus vu l'heure du match, c'est à plein apéro, donc tu sais quand même que c'est le deuxième sport national chez nous après le foot.
Donc c'est truc social.
Donc il y aura du monde
dehors. Et les joueurs seront accueillis à l'aéroport, c'est sûr.
Et bien sûr que il y aura bien de pétards qui vont claquer si jamais ça gagne, voire plus. Alors il y aura pas de défilé sur la Canebière ni autour du Vieux-Port.
Chez vous les pétards. Faut préciser, c'est la Kalachnikov, en fait, chez vous.
Arrête, non, bien sûr que ce sera. Alors, tout le monde est conscient que dans la hiérarchie, on l'avait fait l'autre fois, la hiérarchie des trophées. Bon, ben, celui-là, il est même après la Coupe de France pour moi.
Non, mais plus loin, Eric. Si l'OM gagne, il y aura des.
Si l'OM ne veut pas le mettre dans la vitrine.
Il y aura un nombre important de supporters qui accueilleront l'équipe à l'aéroport. C'est sûr.
C'est possible. Oui, mais c'est sûr. Il y a le trophée, mais il y a l'adversaire. Je pense que pour l'OM, la victoire contre le PSG qui donnerait à ce trophée une saveur particulière si c'était l'OM qui le remportait par rapport au PSG.
On veut le nom des mecs qui vont à l'aéroport accueillir. on retire les allocations familiales et tout.
Jean-Christophe, on débattra aussi de l'enjeu de ce match, bien sûr, avant jeudi dans le Super Moscato Show.
Par contre, qui c'était l'auditeur de Troyes? Jean-Christophe, est-ce qu'on peut pas demander à un technicien de régler pour l'accent et régler le son? Parce que là, l'accent, il est quand même assez difficile.
C'est l'accent de l'autre en Champenois.
C'est comme ça l'accent.
Voilà. T'es viticulteur dans le Champagne?
C'est ça, ouais.
Ah ouais?
Voilà.
Bravo. Moi, je t'adore, tu dois prendre des caisses dans le au champagne. Tu vas avoir des aigreurs, quoi. Ça remonte, on a des remontes.
Non, ça passe encore, le mien, il passe pas trop mal.
C'est vrai, pas trop mal.
Jean-Christophe, maintenant, on fait des très bons pétillants un peu partout en France.
Tu vas voir,
les moscatos. Les moscatos.
J'ai trouvé le spumante.
Ça fait rigoler des copains de Brest s'ils t'entendent, là. C'est une petite dédicace à Christophe, Gaël, s'ils entendent, ils vont rigoler, ouais.
Le moscato spumante, il n'y a rien de mieux. Ça équivaut les meilleurs champagnes.
Merci Jean-Christophe.
Comme la plaquette de limon. Ouais.
Dans un instant, on s'inquiète pour Arthur Fils. C'est notre cri de gueule. Il va encore manquer un grand chelem. Ce sera le troisième d'affilée. À tout de suite.
Il est 15h28. On est dans le Super Moscato. On revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super.
Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h31. On y revient au Mastic. On est avec Sarah Piposki, bien entendu, Eric Dimeco, Adrien Aiguin, Pierrot. Et comme on parle de tennis, là, dans un instant, on voulait du renfort. Donc on a vu un vrai spécialiste, le Steve Founébrin, est avec nous. Comment il va le
Salut Vincent, salut Sarah, salut Eric.
Salut Steve.
Il y a quelques coupeurs de courant, donc je suis là en super sub, prêt à intervenir au cas où. Voilà.
Ça joue un peu au tennis en ce moment, Stephen?
Paddle. Je joue au paddle, c'est tennis, ça joue un peu, mais c'est pas chauffé là où je joue, donc il fait un peu frisquette.
Ah oui, donc, ouais.
Et puis j'aime pas jouer en collant et en jogging, ça m'intéresse pas.
J'ai remarqué que Steve, il a
défié. Il a défié Mario, mais jamais
ça.
Les jambes de 4 mètres.
Parce qu'en fait, Sarah, j'ai beaucoup d'amitié pour elle.
Mais c'est pas possible. Sarah, on va parler d'Arthur Fils. Est-ce que tu joues au tennis en ce moment, Sarah?
Non, je joue pas au tennis.
Tu t'avais
déjà joué?
Non?
Mais t'avais rejoué, mais t'étais blessé, non?
Oui, je m'étais blessé, mais non, il fait trop froid là.
Si pour tu t'y mets là, tu le roustes le grand
non,
si
le comme rouste, ça, là, t'as non, plus, là. Non, je le rouste pas.
Mais il y a match.
Il y a match, et je pense qu'il faut que je choisisse une surface qui va m'avantager.
Non. Oui, la gadoue, quoi. La balle en bandit pas.
Non, au contraire. Au contraire,
j'espère qu'il sera gentleman et qu'il te laissera la surface quand même.
Attends, ouais, juste pourquoi ça t'avantage
parce
toi
qu'en fait, le jeu de tennis, c'est aussi du contre. Donc moi, je n'étant pas puissante, je vais m'appuyer sur sa balle pour que ça reparte plus vite.
La technique, la balle, si tu t'appuies sur ses balles, je veux voir ça quand même.
Mais Philippe pétait un câble, Sarah, un jour. Jouer tous les deux.
Sarah, combien de taille te faut pour pouvoir le prendre, le grand, là?
15 ans, non?
Non, pas clairement. Il faut que je m'en... Je suis entraînée physiquement, il faudrait que je joue au tennis. Je suis au niveau cardiaque, j'ai aucun problème.
D'accord.
Je pense que je peux tenir 2 heures, 2 heures et demie.
Il faut jouer, il faut pratiquer.
Oui, il faut jouer.
Après,
mais comment est-ce que nous, avec Vincent, te sponsorise s'il faut?
Oui,
la discipline où il y aura vraiment compétition entre nous, c'est aux fléchettes. Là, on ne sait pas qui gagnerait.
Le gars,
tout seul. Mais en même temps, là, il est avantagé quand même.
Pierrot, tu y as joué, tu as vu comme c'est dur?
Ah ben, on y a tous joué dans les bars.
Le problème de Vincent,
Tu peux pas savoir comme c'est dur.
Non, mais le 501, c'est très dur.
Non, oui, bien sûr. Ben non, mais si on joue, c'est au 75 qu'on joue. Et donc, je te dis, tu verras, le premier jeu, on le finit jamais.
S'il faut finir par un double, c'est compliqué.
Et oui, je te dis, tu le finis jamais.
Et en plus, Eric,
ça décolle, ça va pas être passionnant sur le 501 et compagnie. Non, mais je vous le dis, c'est trop.
Eric, il serait perturbé parce qu'en plus, il y a du bruit dans les fléchettes. Il peut pas avoir le silence comme au golf, tu sais. Il va dire, oh non, je peux pas jouer parce qu'il y a trop de bruit.
Fléchette dans l'œil au bout d'un moment, s'il perd la première manche.
Mais toi, quand j'étais petit, je l'ai tiré, se tirer dessus avec les fléchettes, bien sûr.
On en parle à 17h30 du champion du monde de fléchettes.
La vieillesse, c'est un naufrage. Quand le pauvre Eric, quand même, avec ce qu'il a vécu,
d'abord,
champion d'Europe et tout, mais tu avais fait des fléchettes. C'est un drame.
C'est le tennis.
RMC,
le cri de gueule du super Moscato Show.
Alors, on est préoccupé pour Arthur Fils. Le Français repousse encore son retour. Il renonce à la tournée en Australie. Il n'a pas joué depuis le mois de juillet et donc traîne une blessure au dos depuis Roland Garros. On va faire le point sur sa santé avec Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut Pierrot, salut le SMS, bonne année à tous.
Est-ce que c'est inquiétant tout cela?
Ouais, j'en ai marre. Hein.
Maxime. Ah, on a perdu Maxime déjà, non?
Vas-y
Maxime.
Oui, bah à vous de me dire si c'est inquiétant pour Arthur Fils ou pas. En tout cas, son clan, ni lui ni son clan en tout cas, ne semble s'inquiéter puisqu'ils ont pris la parole dans une vidéo sur la chaîne YouTube d'Arthur Fils. On évoque évidemment cette fracture de fatigue au dos assez longuement. Et d'ailleurs, avant Roland Garros, à Rome, il avait déjà tellement mal qu'il n'arrivait plus à faire sa valise tout seul. C'est ce qu'on apprend. Et un risque a été pris ensuite pour qu'il puisse faire Roland Garros avec les conséquences qu'on connaît. Il a repris puis rechuté à Toronto au mois d'août. Écoutez Arthur Fils qui prend son mal en patience et donc va louper son troisième grand chelem de suite.
Non, je m'attendais pas à une si longue coupure parce que c'est une blessure que je connais. Et la dernière fois, quand ça m'est arrivé, j'avais arrêté 2 mois, je pense. Et j'ai repris les tournois au bout de 2 mois et demi. Donc non, j'aurais pas pensé que ça allait être aussi long. Je suis jamais vraiment trop inquiété. Enfin voilà, on est blessé, ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau. Maintenant, ça prend le temps que ça prend et puis c'est pas si grave. J'ai encore 10-15 ans de carrière, donc ça va, c'est pas une course.
Revenir trop tôt, c'est facile. Revenir fort, ça prend du temps. Voilà également une phrase de l'ancien 14e mondial. Il assure avoir changé des choses dans sa préparation. Arthur Fils reconnaît avoir perdu du poids, avoir réduit sa masse grasse. Tous ses repas sont validés par une nutritionniste. Il travaille avec un kiné allemand désormais. Et puis Fils répète son objectif de gagner des grands tournois, et ce, dès cette année, comme des Masters 1000 ou des Grands Chelem, avec toujours ce rêve d'être un joueur numéro 1 mondial. Il passe, dit-il, déjà beaucoup d'heures en salle de gym et sur le court, et son retour est espéré pour le tournoi de Montpellier à la fin de ce mois de janvier.
À fin janvier, très bien. Vincent, est-ce que c'est inquiétant? Alors, il est pas vieux, 21 ans, mais ça fait quand même, ça fait 8 mois que ça dure, avec un handicap certain, puisque manifestement, il ne faisait pas sa valise tout seul. Plus Vincent.
Bon, plus Vincent. Sarah, il n'a pas envie.
Sarah,
vas-y.
Inquiétant, en tout cas préoccupant. Inquiétant, je ne sais pas, mais véritablement préoccupant. Et comme le disait Maxime, en fait, je pense qu'il y a eu, un petit peu d'impatience du côté d'Arthur Fils et peut-être de son staff.
À revenir.
Alors déjà à jouer Roland Garros, parce qu'il avait déjà mal sur les tournois qui précédaient.
Ça, c'est une bêtise.
Facile de le dire après. Après, quand t'es français et que t'as Roland Garros trois semaines après, et qu'on te demande, quand tu demandes l'avis du médical, et la première chose qu'il a demandé, c'est ce qu'on demande, est-ce que si je joue, j'aggrave ma blessure? On lui a répondu non. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'effectivement, ça s'est aggravé.
Il n'a pas
après...
fait contre l'avis médical.
Non, il n'a pas fait. Et puis, voilà. C'est son choix. Il lui a dit, si tu prends des anti-inflammatoires, faut arrêter tout de suite. Il a eu des matchs longs. Et c'est vrai qu'après Roland Garros, il a peut-être aussi voulu reprendre trop rapidement. Et je suis assez étonnée parce que son premier tournoi aux États-Unis, il s'engage en simple et en double. Donc en fait, il y a une forme peut-être d'impatience dans sa reprise qui fait que ça a peut-être rallongé la reprise. Après, il y a eu quand même des décisions, et il le dit dans ce fameux petit reportage qu'il est en train de faire, puisqu'on peut maintenant le suivre sur YouTube.
Il est suivi par une équipe.
Exactement, c'est la grande mode aujourd'hui de suivre les coulisses sur la longueur.
C'est aujourd'hui, c'est comme ça.
Et donc on voit que avec cette expérience des 8 mois, il est en train de se forger un autre physique, de trouver d'autres solutions, parce qu'en fait cette fracture de fatigue, c'est une vraie faiblesse du dos, et il va se la traîner toute sa carrière. Donc en quoi je suis pas inquiète, c'est qu'aujourd'hui tu as des moyens de travailler, de te renforcer, qui font que tu peux pallier à ces faiblesses pour pouvoir tenir sur ta carrière. Sauf que ça met du temps. Et comme tu le disais, Pierrot, il est jeune, il a 21 ans. Alors effectivement, quand on est 14e mondial à 21 ans, on pensait tous qu'on allait le revoir.
Il nous a rendu pressés aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui.
On voulait le voir en deuxième semaine de Grand Chelem. On aspirait à ce qu'il rentre dans le top 10 très rapidement. Mais 21 ans, c'est jeune et il prend le temps.
Steve.
Alors, ça a raison de parler de ce tournoi au Canada, où pour moi c'est une bêtise qu'il a fait de jouer ce tournoi-là, alors qu'il avait une petite douleur. En plus, tu joues deux doubles et tu fais VO, et tu joues deux simples et tu fais VO. C'était une très mauvaise idée. Je sais pas
qui
fait VO. WO, VO forfait.
Quoi il a pas été.
Il a fait forfait. Ouais, walkover.
Tu peux pas parler français.
Je pense que c'est le langage du tennis, ça.
Oui, oui, tout à fait.
Ah, d'accord. Et donc, nous, on n'a pas le droit de comprendre.
Moi, je crois que c'était en version originale comme au cinéma.
Ben ouais, VO.
Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il était dans une dynamique ultra positive. Il jouait bien au tennis. 8 mois sans jouer, déjà, ta concurrence progresse. T'as des mecs qui jouent mieux que toi. Ça veut dire que 8 mois sans jouer, combien de temps tu vas reprendre pour jouer au niveau où tu étais il y a 8 mois? Tu peux revenir sur le circuit, tu vas peut-être avoir un classement protégé. Mais le problème, c'est que t'as accumulé trop de retard par rapport à des mecs qui ont continué à jouer. Donc son classement, il a quand même pas mal de points à défendre. Je suis pas sûr qu'il soit top 20 à la fin de la saison.
Il est 40, hein, au-delà de la 40e.
Oui, 40e. Et le problématique, c'est le dos. Le dos, c'est... T'as mal au coude, t'as mal à l'épaule. Le dos, c'est problématique parce que c'est la base du sport, en fait, le dos. Le service, tu te cambres, c'est le dos. Chaque coup, un revers, un coup droit, le dos est sollicité en permanence. Ça devient un vrai point faible, même à 21 ans, même s'il y a du temps devant lui. Il prend beaucoup de retard et ça m'inquiète à 21 ans d'avoir une fracture de fatigue du dos. C'est grave et pas grave, parce que Sarah dit, tu peux le soigner, mais le problème, c'est qu'il aura cette carence.
Oui.
T'as beau renforcer ton dos.
C'est pour ça qu'il travaille avec une nutritionniste, et qu'aujourd'hui il s'est aussi allégé. Alors je le trouvais pas très massif.
Il était pas gras, non?
Non, il fait 1m85 et il fait 83 kilos.
Il était bien découpé.
Il était saillant, mais je vais faire une comparaison avec Joe Tsonga, qui au début de sa carrière...
Un peu plus boule.
Non, mais oui, alors. Je vais être content. T'as raison. Il faisait 1m89. Enfin, il fait 1m89. Il faisait 90 kilos. C'était pas le même physique. Mais Joe a eu pendant les trois premières années où il arrive sur le circuit que des problèmes de dos. C'est-à-dire que ça a même retardé finalement son ascension. Après, il explose à l'Open d'Australie en 2008 où il fait cette finale face à Djoko. Mais les trois années d'avant, il galère terriblement.
Il a su le régler.
Il a su le régler.
Voilà. Mais le problème, c'est que Arthur Fils, c'est un très bon joueur de tennis, mais c'est pas un génie non plus. Tu te dis pas, il peut s'arrêter 8 mois, il va être numéro 1 mondial. C'est-à-dire qu'il va batailler contre des mecs qui sont plus ou moins de son niveau. Et que ce qu'il a loupé sur les 8 mois alors qu'il joue un tennis merveilleux, t'es même pas sûr qu'il arrive à reprendre. Tu loupes déjà un grand chelem. C'est quand même embêtant de louper un grand chelem à 21 ans, le premier de 2026. T'as loupé l'US Open, t'as loupé Wimbledon. Il y en a pas beaucoup des occasions. Tu sais pas ce qui va se passer. Surtout que ton dos va t'empêcher d'en jouer d'autres des grands chelems. Donc 21 ans, oui, il y a encore beaucoup de temps, mais moi je suis perplexe et je suis inquiet.
Eric Dimeco, est-ce que tu es perplexe, est-ce que tu es inquiet?
Inquiet, non, il est jeune. Alors après, c'est toujours pareil, tu sais, quand on parle d'expérience, moi je vais me reporter à mon sport, mais c'est vrai qu'il y a des en prenant de l'expérience, en connaissant son corps, en connaissant ses facultés finalement, parce que on n'est pas tous égaux devant le physique, l'enchaînement des matchs, et peut-être que justement en vieillissant, en prenant de l'expérience et avec ce genre de pépins, eh ben il va apprendre à se gérer, à gérer sa saison, à gérer son corps, peut-être à faire des progrès dans son entraînement pour justement faire en sorte d'avoir un peu moins de pépins physiques. Voilà, alors inquiet, non, il serait en fin de carrière ou au milieu de carrière où là on se dirait ça pose des problèmes maintenant si ça commence à devenir récurrent, mais moi je suis pas particulièrement inquiet et j'espère justement que il va en tirer des enseignements et progresser peut-être dans la manière de s'entraîner aussi, parce que
après le problème ce sont les autres, c'est pour ça on est forcément naturellement obligé de comparer. Eric, il est de la génération, je résume à 2-3 ans près, mais Sarah, il est de la génération de Sinner, Alcaraz et de tous ces monstres là, donc faut se forcer nous peut-être à ne plus d'accord. comparer et à ne plus attendre qu'il gagne un tournoi du Grand Chelem comme on l'a entendu
jamais personne a osé comparer.
On s'est dit s'il y en a un qui peut en accrocher un, c'est peut-être lui, sur un malentendu il y a un an on disait ça,
on peut mettre ici, on peut rêver, mais ces deux là ils sont bien au-dessus. Je veux dire, Arthur aurait continué sa progression.
C'est quoi son potentiel? Enfin, on peut l'imaginer aller jusqu'où?
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Il a quart de finale de Grand Chelem.
Deuxième semaine de Grand Chelem, déjà, effectivement, ce qu'il n'avait jamais fait. Oui.
Là, je parle d'un avec Max.
Je rappelle qu'on voyait en demi-finale à Roland.
Oui, voilà, c'est ça.
Si longtemps que ça.
Il était 14e avant Roland Garros. Il avait peu de points à défendre. Et avec les calculs de notre savant Eric Salio, il rentrait très facilement dans le top 10. On le voyait dans le top 10 sur la fin de l'année. De là à se dire qu'il est en finale d'un grand chelem face à un Alcaraz ou un Sinner, là, on va un peu vite en besogne. C'est un joueur qui peut amplement être dans un top 10.
En gros, en 2026, cette année, si on le voit en deuxième finale d'un grand chelem, alors ce sera pas en Australie.
Deuxième semaine.
Ah,
oui.
Ce serait fantastique.
Ce serait une réussite déjà.
Bah oui, parce qu'il y a ce retard accumulé, il y a un travail à refaire, et puis il va pas être protégé avec son classement protégé, il sera pas tête de série. Donc les tableaux qu'il va devoir se cirer dans les grands chelems, il peut tomber sur n'importe quelle tête de série dès les premiers tours.
On remercie Maxime Tilliette. Merci Maxime.
Tilliette.
Correspondant à Monte Carlo,
Maxime.
Dans un instant, Journal Moyen, première édition sur AMC.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce Journal Moyen, première édition. Il y a de la musique. Beyoncé, on aime Beyoncé. Elle est contente en ce moment, elle rejoint le club des 5. C'est un joli club. On passera par Albi, chez Vincent, à côté, dans le Tarn. Et puis, on va parler galette. Je sais qu'Éric Dimeco est un feu pâtissier. D'ailleurs, on va en parler. Éric, il va ouvrir une petite. Il se lance dans la restauration, Éric Dimeco. Il aime la galette, Éric Dimeco, il aime la frangipane.
Ah non.
Ah oui,
bah non, chez nous.
Oui, mais chez nous,
c'est pas la galette, c'est le gâteau, nous.
Mais tu aimes malgré tout la galette quand même, Éric. Si on t'en sert une petite part.
Comment ça, vous, chez le gâteau?
Le gâteau des rois. La brioche, là.
Le gâteau des rois, la brioche.
Avec les fruits confits.
Bien sûr, ça, c'est.
C'est ignoble, ça.
Ah, c'est merveilleux. Tu sais que. Je mange que ça pendant tout le mois de janvier, tellement que c'est
bon. Ah oui, okay. C'est pour ça que tu marches droit.
Journal Moyen, première édition, c'est tout de suite.
RMC jusqu'à 18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h48 de Super Moscato Show. C'est le journal moyen d'Adrien Aigouin.
La première édition du journal moyen, l'actu, la culture, les médias, la musique. Queen Bee. Je sais que tu aimes bien Queen Bee, Sarah.
Bah, du moment que tu me demandes pas de danser comme elle.
De chanter alors.
Non plus.
Je crois que c'est facile de danser comme elle que de chanter comme elle.
Je crois que Stéphane, il danse très bien comme Beyoncé.
C'est vrai?
Ah bah alors lui, alors le booty shake. Le booty shake, j'aimerais bien le voir, le grand, la grande ah ouais. cigogne.
Ah, je suis plus Jay-Z, moi je danse comme Jay-Z plutôt.
Ah ouais, bah il danse sur place, Jay-Z. Voilà.
Le ventilateur, tu sais, avec le boule qui bouge.
On va aller
comme ça,
pas loin de chez Vincent à Albi, dans ce journal moyen première édition, dans le Tarn, une des plus belles villes de France, Albi. Et puis, on va parler des bistrots et des cafés. Ah oui, il y a une cathédrale Albi qui est classée, monsieur Dimeco. Vous écoutez RMC, c'est le 2476e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Mais on débute avec une de nos spécialités dans le journal moyen. Première édition, le sport et l'argent. L'argent et le tennis. Sarah qui est forte en calcul. Jingle.
Sur un terrain de tennis, tu mets que deux personnes ou quatre éventuellement. Tu divises par deux. T'as donc 4 fois 4, tu as 8 personnes, enfin 12 personnes qui peuvent jouer en même temps.
Ah ouais. C'est chaud là. Le 18 janvier, c'est le début de l'Open d'Australie avec, on en parle souvent, en prize money, bah, qui n'arrête pas de augmenter. C'est comme ça dans le tennis ces dernières années, Sarah. 16% d'augmentation sur un an et 53% d'augmentation sur quelques années pour l'Open d'Australie.
Oui, mais ça ne représente pas encore une grande partie des recettes d'un grand chelem.
Les vainqueurs des simples messieurs et dames, égalité, empocheront chacun 2,38 millions d'euros. Ça augmente. C'est pas le record. C'est 3,5 millions pour Wimbledon, par exemple. 3,6 millions pour l'US Open. Ouais. Roland Garros, 2,5 millions. Oui. Toujours intéressant. Les joueurs battus au premier tour.
Tu parles à quoi? En euros. Un livre, un euro.
Les joueurs battus au premier tour de l'Open d'Australie gagneront, par exemple, d'office, 85 000 euros. C'est pas mal, mais on rappelle, Sarah, que.
Mais ça dépasse pas. Oui, mais ça dépasse pas les 20% de recettes d'un tournoi du Grand Chelem. On est loin de la répartition de la NBA, par exemple, encore.
Ils s'en gardent beaucoup dans les fouilles,
les Grands Chelems.
D'ailleurs, les joueurs et les joueuses râlent.
En tout cas, ils mettent la pression. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait un lock-out aussi des joueurs et des joueuses de tennis auprès des Grands Chelems.
Ah ouais?
Ah bah oui!
C'est pas très populaire.
Bah, ce serait pas très populaire, c'est eux qui font le spectacle.
Mais ils font le show, c'est vrai. Sans transition, t'as combien en prize money toi en carrière, ça?
Je sais pas, mais vous voulez savoir combien j'ai gagné en 92 quand au premier tour de Roland?
Vas-y.
Bah, c'était 1500 euros.
Ah ouais, 92.
Oh merde.
1500 euros?
Ouais. T'as racheté une raquette.
Tu les as dépensés?
C'était 1500 euros en 92, et donc là on est à 90 000 euros au premier tour à Roland.
D'accord, sans transition, c'est pas beaucoup à l'époque.
En France, ça faisait quoi alors? 10 000 francs.
Ouais, c'est 10 000 francs, c'est ça.
Des nouvelles.
Ouais, mais il faut que tu. Aujourd'hui,
j'ai les gars en carrière de Sarah Pitkowski.
Alors vas-y.
823 000 dollars.
C'est pas mal. Et t'as arrêté tout en plus.
Oui, j'ai arrêté il y a longtemps.
Au même
25
niveau
ans.
Aujourd'hui, tu gagnerais 10 fois plus.
Oh, mais bien sûr.
Bah vas-y, joue.
J'ai 20 ans de plus, donc c'est mort.
Sans transition, des nouvelles d'une grande chanteuse. On la surnomme Queen Bee, Beyoncé. On en parle souvent dans le journal moyen première édition. Elle rejoint son époux Jay-Z dans un club très fermé. Taylor Swift, Bruce Springsteen, Rihanna, Jay-Z et donc Beyoncé. Elle rejoint le club des 5. 5 chanteuses et chanteurs les mieux payés, les plus riches au monde. Chanteur solo, on ne parle pas de groupe. Hein. Elle a dépassé, ça y est, selon Forbes Magazine, le milliard de dollars. Elle est officiellement milliardaire. Sa tournée, vous savez, la tournée en cow-boy, là.
Oui.
Ça lui a rapporté déjà d'office 400 millions de dollars. Et la tournée précédente,
ce qu'il fait, elle avoir,
600 millions. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir Beyoncé?
Ouais, c'est un joli spectacle. Queen Bee. Très joli spectacle. Il y a le concert de Beyoncé, juste en dessous, il y a les apparitions d'Osiris dans les villages.
Moi, je les ai vus, pour le coup, cet été.
Tu les as vus, toi?
À Vieux Boucau.
À Vieux-Beaucourt. Ouais. Est-ce que vous y allez si vous rentrez dans le club des 5
Les 5 est moins payé. Est-ce que vous visez le club des milliardaires, Eric?
Écoute, je crois que mes copains ne se plaignent pas.
D'ailleurs, on salue Michel et Pierre Campistron qui avaient organisé ce concert à Vieux-Beaucourt pour leur association.
C'est-à-dire que toi, tu étais sur la route et tu t'as dit à Valérie, à Oscar et à ta fille, tiens, on va s'arrêter voir Osiris à Vieux-Beaucourt.
Les enfants ont fait non, on passe.
Eric nous dit à l'antenne à peu près 50 fois qu'il est à Vieux-Beaucourt. Vieux-Beaucourt, je ne connaissais pas. Et puis moi, j'allais en vacances dans les Landes.
Oui.
Et puis je me suis rendu compte que j'étais à 20 km. Donc j'y suis allé. Quand même.
Voilà, ça c'est beau.
Soirée.
Ça.
T'as passé une belle soirée.
Oui, c'est beau. Valérie
a passé une belle soirée.
Très belle soirée.
Les enfants.
Ils sont fait chier.
Eh ouais, un peu cher. C'est pas pour les enfants.
C'est pas la génération Oasis, les enfants de Pierrot.
Et
Forbes précise que la majeure partie de sa fortune provient de sa musique parce qu'elle contrôle ses droits de son catalogue. Les droits de son catalogue qui sont hyper précieux et avec que des tubes. Et puis malgré tout, elle, ça rapporte beaucoup
la tournée. J'ai un plan pour toi, Eric. À l'Open d'Australie, ils innovent. Il va y avoir un concert avant chaque night session.
Ah oui, un vrai connu.
Bah oui, il y a Sophie Ellis-Bextor qui devrait chanter.
Vas-y, Eric.
Je pense que ça peut être un bon plan, non?
Oui, bien sûr. Après, nous on prend pas de cachet pour aller en Australie. Nous, ils nous payent
juste l'avion. Juste l'avion en première.
Comme ça, tu vois.
Comment ça se passe pour Osiris? Les rémunérations. Vous êtes payé par la salle qui vous invite, par le village qui vous invite.
Ça dépend. Soit on s'autoproduit, soit on est invité.
Ça dépend du modèle de forfait, en fait.
Bien sûr.
Manager. Vous prenez une petite enveloppe en cash.
Pas Eric.
Ah non. Ça marche plus comme ça maintenant. On a un manager qui signe des contrats, qui récupère les sous et qui paye les musiciens. Bon, moi je suis pas payé, je suis bénévole, mais les autres sont payés, bien sûr.
Toi, tu joues quoi, de la guitare ou de la basse?
De la basse.
Et comment ils vont faire là quand tu vas te faire opérer? Il y a plus de concert.
Là on est out. Non,
ouais, les fans sont
en stand-by parce que les fans ça passe.
Vous sortez pas
un nouvel album,
un EP pour faire passer
les fans. Sinon ils peuvent te mettre en visio.
un hologramme
comme Mélenchon et ses meetings. Dans un journal moyen, deuxième édition dans une heure, ne loupez pas ce moment parce que j'ai une excellente séquence qui va nous rappeler des souvenirs. Pierrot, ça va te rappeler des souvenirs drôles et de frissons.
Ça y est, je l'ai.
Dans cette séquence seront réunis Laurent Cardona, l'ancien arbitre de Top 14.
Ah oui, bon Dieu.
Bernard Laporte, notre Vincent Moscato.
Ah, tu vas passer les trucs.
Rendez-vous 16h45. Ça va nous remémorer des histoires du Moscato Show.
Un moment mythique de
incroyable.
L'émission.
Le Moscato Show était impliqué.
Un des grands classiques.
Je me permets d'en parler, de diffuser ce qui a été révélé par Laurent Cardona, puisque depuis, tout le monde s'est réconcilié, tout le monde, il y a des.
Oh ouais, ça rigole, j'ai l'impression.
Mais le temps a fait son œuvre, Eric. Mais ce sont des moments incroyables. Pierrot, j'ai réécouté ça tout à l'heure en préparant. J'avais des frissons pour toi qui étais à l'antenne.
Allez, dans un instant, on va parler rugby avec le retour d'Antoine Dupont en grande forme. Les Bleus redeviennent-ils favoris face à l'Irlande? Vincent Moscato règle le problème sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.